Intersigne. Une émission de Habib Salha.
Nasr Ben Cheikh est professeur émérite. Il est professeur en sciences et techniques des arts à l'université de Manouba. Il est peintre et journaliste. Il a participé durant les 40 dernières années aux débats qui touchent à l'étude critique de l'art arabe contemporain, ainsi que la création de plusieurs groupes d'artistes. Il a été de 86 à 88 directeur de la revue Dialogue, de 95 à 2002 directeur fondateur de l'école des beaux-arts de Sfax et de celle de Tunis. Il continue à enseigner, il dirige des chercheurs, il a formé toute une génération. Nous allons lui poser une question. Quelle révolution pour quel art? Quel art pour quelle révolution? Nasr Ben Cheikh, vivre à Tunis, peindre à Tunis, la Tunisie s'est transformée en laboratoire et en laboratoire vivant. Vous êtes professeur émérite, vous réfléchissez, vous écrivez, vous formez des jeunes. Alors, quelle est la position de l'artiste, peintre, chercheur?
Je pense que la révolution tunisienne est un moment très important de l'histoire de notre pays, depuis l'indépendance et même avant. Quand je dis un moment très important, parce qu'il représente à mes yeux un moment, disons, très particulier, parce qu'il est exceptionnel dans la vie d'un chercheur, d'un artiste, d'un intellectuel, d'un enseignant, l'enseignant que je suis. Disons que personnellement, je l'ai vécu en tant que moment inattendu, presque inespéré, et qui m'a très agréablement surpris, comme il a surpris tout le monde. Disons que l'émergence en soi, de cette manière surprenante et inattendue, donne à la révolution, à notre révolution, un aspect, comme on tout le monde l'a dit, presque inédit, malgré ce que l'on a dit sur sa récupération, sur sa prétendue préparation ailleurs. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que cette révolution a été, disons, le produit d'une révolte qui est devenue une révolution et qui, grâce au terreau que la Tunisie, avec sa culture et avec la prédisposition de son peuple, le niveau d'instruction, je ne dis même pas, et de culture quelque part, a permis de donner à cette révolution une dimension véritablement révolutionnaire. Et je pense que cet aspect-là, authentiquement révolutionnaire, qui est en train de résister contre toutes les tentatives de récupération, qu'elle soit étrangère ou intérieure.
Vous êtes artiste, Nasr Ben Cheikh, comment transformer l'étincelle en acquis?
Effectivement, quand on parle révolution, c'est essentiellement l'explosion d'une énergie, quelque part. Et comme toute énergie, si on ne la canalise pas, si on ne lui donne pas forme constructive, si on ne donne pas une forme créative, créative d'histoire, elle risque d'être catastrophique, comme toute énergie, c'est-à-dire en sens où toute explosion est amenée quelque part à être gérée, et on ne gère pas une révolution comme on gère l'histoire quand elle n'est pas en période révolutionnaire. En période non révolutionnaire, dans le sens de période de stabilité, etc., c'est gérer le quotidien presque et essayer de faire produire à ce quotidien un certain devenir ou un certain avenir en fonction du bon fonctionnement des institutions telles que l'université, le renouvellement des cadres, etc. et la traite. Mais en période révolutionnaire, il y a une dimension artistique qui doit être, qui doit accompagner ou qui doit qualifier l'activité politique. Et je pense que jusqu'ici, si on a échappé à la catastrophe, ce n'est pas seulement à cause de l'apport des politiques. Je ne vais pas par quatre chemins. C'est essentiellement à cause de la créativité de nos jeunes et essentiellement de l'attitude des artistes avec tout ce que ça implique. Comme peut-être mal géré ou bien géré, mais il y a l'idée de la créativité et l'idée de l'art. Ne serait-ce que, je rappelle, deux événements, c'est à partir de l'Abdelir qu'il y a eu comme une sorte de grain de sable dans le système de récupération par, disons, l'hégémonie ou quelque chose, l'hégémonisme, soit extérieur ou intérieur. Mais ce n'est pas que l'exposition de l'Abdelir en elle-même était d'une qualité exceptionnelle au niveau artistique, etc., mais le fait même qu'il y ait la révolution plus la manifestation artistique, plus la volonté de vouloir, arrêter cet élan-là, qui a fait surgir une conscience nouvelle au niveau de la révolution tunisienne, et peut-être ça a sauvé peut-être le pays à un certain moment d'un certain chaos qui menaçait. Il faut peut-être rappeler qu'est-ce qu'il y a eu tout de suite après l'Abdelir et qu'est-ce qui menaçait, et puis on a arrêté les dégâts à cause des conséquences positives du fait artistique, parce que le fait artistique touche quelque part au sacré, même si ceux qui prétendent défendre le sacré ne le comprennent pas. L'art, ça participe du sacré. Et il y a quelque part, ce sacré-là s'est défendu du sacré idolâtre qu'est le sacré gélifié, etc.
Deuxième événement, monsieur, puisque vous avez parlé de deux événements.
Le deuxième, c'est normal. Le deuxième événement, c'est l'assassinat de Chokri Blaïd, qui n'était pas un homme politique comme les autres. Personne, aujourd'hui, on veut le récupérer au niveau de son parti politique, au niveau de ses prises de position politique, etc. Moi, je regarde, je vois, j'observe, comme en tant que citoyen qui a beaucoup regardé la télévision et les débats, etc. C'était le seul homme politique qui parlait de culture. Qui parlait de culture et de l'importance des agents de culture, de l'importance des créateurs. C'est le seul qui a défendu la créativité dans ce pays en la présentant comme étant un facteur politique. Et non point un facteur culturel en marge d'eux pour décorer le politique, dans le sens en tant que décorum, en tant qu'activité politique mûre, créative et efficace, l'activité culturelle. Blaïd a été le premier, peut-être, homme politique à se dégager de tout le reste.
Son point de vue confirme-t-il celui de Todorov que nous avons reçu en Tunisie, qui a dit aujourd'hui les grands dangers pour la démocratie ne proviennent plus ou pas de l'extérieur, mais de ses ennemis intimes, ceux qu'elle secrète en elle-même et qui menacent jusqu'à son existence.
Moi, je pense quand même que la démocratie, c'est la fin ultime espérée de notre révolution. Et il n'est pas question de dire les fins ultimes ce qu'on est en train de dire. On va réaliser les fins les fins ultimes de la révolution, je ne sais quoi. Mais y a-t-il une autre fin à notre révolution que celle de l'instauration d'un régime démocratique? Alors, là se pose le problème. Comment réaliser ce régime démocratique? Personnellement, je pense que l'on ne peut le faire qu'en respectant le mode de transition démocratique. Parce qu'on ne peut pas faire de la démocratie en espérant chaque jour qu'il y ait un coup d'État dans le pays pour sauver le pays. Rien du tout. Ou bien, on ne peut pas dire, on va espérer faire réussir notre révolution en espérant qu'elle aille dans une orientation idéologique précise, etc. Essentiellement, je pense qu'il faudrait la préserver de ce qu'on appelle le révolutionnarisme. Parce que la révolution, elle a pour ennemi fondamental le concept, quelque part, ou l'idée, ou la volonté, ou le désir de révolutionnarisme. La révolution, tout à l'heure, j'avais parlé d'énergie. J'avais parlé que si on ne la maîtrise pas, si on ne la féconde pas, si on ne la transforme pas en proposition concrète, créative, elle devient désastreuse et elle s'auto-détruit elle-même et elle n'a rien à voir avec une révolution. Elle revient au stade primaire de révolte.
Quel est le rôle des artistes alors? Puisque la question initiale, Nasser Benchir, c'était l'art pour quelle révolution et quelle révolution pour quel art? Et nous parlons de cette Tunisie, ce tout petit pays qui voit grand.
L'art ne peut pas échapper, l'artiste ne va pas échapper à son rôle de liant. De liant, quelque part de modérateur et surtout de quelqu'un qui devrait et doit avoir, doit être convaincu de la nécessité de l'optimisme radical. Être optimiste jusqu'au bout, même dans les moments les plus sombres, et peut-être, comment dirais-je, dire avec le dicton, on dit il faut que l'espérance l'emporte sur l'expérience. L'expérience veut dire toutes les déceptions. Toutes les expériences qu'on a faites qui sont négatives, et malgré ça, il faut continuer à espérer. Et là, la dimension de l'art, c'est le dépassement dans le sens de l'espoir. Et je pense que tout artiste qui cherche à, profiter de la révolution pour faire du révolutionnarisme en matière d'art, et presque être lui aussi un opportuniste, est amené à disparaître quelque part, parce que ce ne sont que des choses très superficielles qui n'ont rien.
Les artistes tunisiens ont-ils digéré, encore une fois, cette explosion d'énergie? Ont-ils suivi? Ont-ils fréquenté les barricades? Ont-ils proposé, Nasser Benchir, vous voyagez, vous sortez, vous regardez, ont-ils proposé ce que vous avez appelé un fait artistique, un autre produit, une autre manière de voir et de concevoir?
Je vais peut-être vous surprendre. C'est la nécessité, fréquenter les barricades, être dans les manifs, s'exposer aux dangers, et aux dangers réels.
Quotidien, banal.
Oui, quotidien.
Fatal.
Vivre dans le risque, avec le risque, est très créatif et très important et très nécessaire. Mais en tant que presque, en tant que motivation pour la création, et non point en tant que finalité. Personnellement, l'année dernière, c'était la première année de la Révolution, je me suis dit, j'étais le seul d'ailleurs à me déplacer de Tunis, en allant passer une année à encadrer un master pour le démarrage, parce qu'ils avaient besoin d'un professeur, à Sidi Bouzid. Et je me suis permis de rentrer de Sidi Bouzid à 9h du soir et de risquer de me faire braquer, comment dire,
entre guillemets.
Je l'ai échappé, avec des risques, etc. Et j'ai continué jusqu'au bout parce que je voulais vivre et être conforme avec mon idéal, avec mes idéaux, d'être, quand on est révolutionnaire, on va jusqu'au bout.
Oser.
On va jusqu'au bout. Et je suis allé à Sidi Bouzid et risquer le fait d'être braqué, entre guillemets, comme tu l'as dit, à Manzel Bouzayen.
Et ça n'a pas été fait. Il y avait des risques.
Non, j'ai eu. J'ai été une fois pris entre deux camions à 9h du soir, dans une route montagneuse entre le Gheb et Sidi Bouzid, avec les portables, etc. Et je suis passé par le fossé pour pouvoir démarrer et partir. Côté, oui. Mais ce n'est pas grave, je suis revenu la semaine d'après comme si rien n'était. C'est normal, j'ai pris du risque, c'est agréable de prendre du risque.
Nasser Benchir, les murs parlent en Tunisie, mais les hommes se disputent, n'arrêtent pas de se disputer. On a l'impression que les débats politiques, ce que la télévision propose, ce que certaines radios proposent, c'est à la limite trop de bruit, trop de fureur, tout en ignorant qu'en fin de compte, c'est l'idéologie technique. Il y a trop d'informations, il y a trop de signes, il y a trop de vidéos, il y a trop... Et l'outil ne change pas l'homme. L'homme, lui, doit se construire. Et ça prend du temps.
Moi, je commence à méditer là-dessus, parce que moi aussi, j'avais cette idée qu'il y a du trop. Mais je ne pense pas qu'au niveau de l'information, qu'au niveau des manifestations culturelles, qu'au niveau même des manifestations de rue, de révolte ou de révolté, etc., je ne pense pas qu'il y aura jamais assez pour que l'on puisse mûrir, parce qu'on doit faire des erreurs. On n'arrive pas à la vérité sans commettre des erreurs. Mais ça n'existe pas. Donc, moi, je le dis toujours à mes étudiants, trompez-vous, participez, n'aie pas peur que l'on rit de vous, etc., au niveau de terre, parce qu'on ne peut pas comprendre une chose si on ne se trompe pas au niveau de son attitude au départ. Alors, je dis que ce n'est pas tellement grave, d'autant plus que je ne suis pas pour ceux qui disent qu'il faut limiter. Comment va-t-on limiter? On tombe dans la répression, quelque part, à un degré quelconque de répression pour limiter les excès, etc. Les excès, il faut laisser, ça va
se calmer.
Se calmer de soi-même. Et avec beaucoup de... C'est nécessaire à la maturation, quand même, qu'il y ait ce chaos-là.
L'art comme manifestation de l'idéologie peut aussi prendre des raccourcis, se poser comme tel d'emblée sans passer par le détour de l'authenticité surfaite. L'artiste peut se présenter comme faiseur d'histoire en se mettant au service du peuple dont il se propose de restituer fidèlement l'image. L'exemple qui illustre cette démarche que nous allons examiner à présent est celui d'un artiste de l'école de Tunis, Zubair Turki, dont la qualité d'homme politique égale en lui celle de l'artiste. Peindre à Tunis, pratique artistique maghrébine et histoire, Nasser Benchir, on a l'impression de lire ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est peut-être ça la qualité d'un livre. C'est-à-dire que cette Tunisie est en train de se construire, qu'elle n'a pas arrêté de se construire, et que les substrats vont sauver l'éclat.
Je pense que vous parlez d'une période des années 60. Là, c'est Zubair Turki des années 60, à l'époque du socialisme, etc., de l'expérience socialiste de la Tunisie. Et il avait sorti à l'époque un livre, Tunis naguère et aujourd'hui, et un autre livre consacré à son œuvre, Zubair Turki. Et le livre a été préfacé par Miloslav Krajini. C'est un critique d'art tchèque, à l'époque tchécoslovaque. Et il était, disons, imbibé du jdanovisme, c'est-à-dire l'art révolutionnaire, etc. etc. Et il a sorti son livre. Et j'ai dit que se poser un art pour le peuple, soi-disant faire un art pour le peuple, et fonder sa qualité d'artiste sur la reproduction, donc sur la diffusion d'un certain type de message en dehors du tableau, et ça devient une image qui circule, une empreinte des tableaux, une image valable uniquement au niveau idéologique, soi-disant le tableau que j'avais analysé, c'est le tableau qu'il a appelé, lui, le capitaliste. Le capitaliste, un bonhomme avare, etc. C'est une idée qui n'a rien à voir avec l'économie, qui n'a rien à voir avec l'analyse réelle. C'est purement de la démagogie et de l'idéologie. Et le tout ayant pour support une imagerie héritée de l'époque coloniale, en plus. C'est-à-dire que c'est, C'est vraiment du direct, dans le sens de la manipulation idéologique directe à l'époque. Alors, pourquoi ? Parce que Zoubeir, effectivement, qui était un ami, et je lui disais cela, et j'allais chez lui, et en discutais, etc. C'était un démocrate comme personne n'a jamais été parmi les artistes. Donc, il s'est mis au service du pouvoir à l'époque. Et ce n'était pas lui seulement. Disons que l'idéologie de l'époque des années 60 en Tunisie, ça a été le monopole par le pouvoir de toute initiative, l'initiative culturelle, l'initiative économique, tout a été pris. Et ceux qui étaient créatifs, moi je pense que cette période-là leur a fait du tort, ceux qui ont été embrigadés, en particulier un monsieur, un grand écrivain comme Messadi, qui a été bouffé par la politique. On aurait pu gagner un grand écrivain, au lieu d'avoir un ministre des Affaires culturelles, plus ou moins, je ne sais quoi, vieillissant, etc.
Mais son œuvre reste grande.
Son œuvre. Oui. Son œuvre, et non pas ça. Peut-être ce qu'ils ont fait au niveau de l'éducation nationale, mais pas au niveau du ministère des Affaires culturelles. C'est-à-dire, en tant que créateur, Messadi a été beaucoup plus performant, beaucoup plus utile à l'histoire de la Tunisie que quand il était ministre des Affaires culturelles.
Notre livre de Nasser Benchir, La culture et l'université à l'épreuve de l'économie. La recherche scientifique a-t-elle accompagné le processus allumé ? Est-elle en train d'accompagner le langage des étincelles ?
Je pense quand même que c'est un livre qui date en 2009, d'avant la Révolution, mais dans lequel moi j'ai pris des positions que je prendrai aujourd'hui. C'est pas
parce que c'est Nasser Benchir. C'est l'œuvre du professeur émérite.
Alors j'analyse là-dedans le rapport de l'art, de la culture et de l'université face à l'économie. L'économie dans le sens le plus scientifique, c'est-à-dire le mode de production économique, le système économique, les impératifs de notre économie, etc., et le rapport à l'université. Et j'ai trouvé une chose, que on ne considère pas assez l'université comme étant une entreprise économique de production. C'est-à-dire, on la considère comme une entreprise de service. On fournit un savoir à tout le monde, d'une manière démocratique, presque gratuit à tous les niveaux, primaire, secondaire, etc., et supérieur. Mais on ne considère pas que ce sont des machines, ou ce sont des entreprises à former des cadres. Et un cadre, s'il n'est pas formé en termes d'économie, c'est-à-dire fonctionnel, capable de produire, capable de fonctionner, capable de marcher, capable de donner, je pense que ça deviendrait vraiment absurde que de former un...
C'est le fondateur des écoles des Beaux-Arts, de Sfax, etc., Nasser Benchir. Vous avez justement défendu cette idée d'ouverture sur le monde, de rivalité en ligne. Un jeune artiste tunisien ou un jeune doctorant tunisien peut justement proposer un dessin, un design, un dessin, je veux dire, une forme. Il peut devenir célèbre. Le monde d'aujourd'hui est un monde quand même ouvert, plus ouvert.
Moi, la première initiative que j'ai prise à titre individuel en dehors de l'université, en tant que directeur à l'école de l'école des Beaux-Arts de Sfax, dès sa fondation, j'avais prévu une grande galerie à l'intérieur de l'école et ouverte sur la rue, sur Sfax. Je suis allé voir même la mairie de Sfax pour leur dire s'ils peuvent participer quelque part pour qu'ils aient un regard sur la galerie qui appartient à l'université, pour que je puisse accrocher les deux, pour que l'université soit implantée dans un lieu précis et que pour l'université, la municipalité ou la mairie ou la ville puissent profiter aussi de la création d'une institution universitaire à vocation culturelle. Dans la capitale presque du Sud, qui est à vocation économique à 1000%, je voulais implanter dans ce corps-là qui est économique quelque chose qui fonctionne pour rien.
Avez-vous réussi ?
J'ai réussi jusqu'au jour de mon départ. Parce que tout de suite après, l'école a été transformée en école d'art et métier. C'est ce que pendant 4 ans presque que j'ai résisté au « faites-nous une école d'art et métier, nous sommes l'économie, etc. » Je leur dis « vous avez besoin de culture aussi. » Il est très important pour la culture, pour le mode de production d'ailleurs économique, qu'il y ait quelque chose comme une sorte de compensation, quelque chose qui soit du gratuit, qui soit du pour rien, qui soit en dépense pour rien et sans rien gagner, pour pouvoir mieux gagner plus tard.
Vous l'écrivez, Nasr Ben Sheikh, mais les nouvelles technologies informatiques ne se limitent pas à l'emploi d'un logiciel de traitement de texte. Elles désignent également un nouveau rapport à la recherche où les nouveaux moyens de transfert, de copie, de collage, de consultation en ligne, de banque de données transforment la production de recherche en activité de citation d'un savoir qui ne peut plus ni couler de source ni être d'origine. Cette réalité nouvelle, vous la décrivez. Avez-vous réussi, en tant que professeur émérite, Nasr Ben Sheikh, à transmettre ce flambeau ?
Nous vivons tous le même problème à propos de l'émergence des nouvelles technologies dans le champ de la recherche universitaire essentiellement, et le fait qu'il y ait une facilitation de l'accès au savoir de cette manière-là, démocratique, etc. Il est possible de prendre et de coller, de télécharger, etc. C'est un avantage qui a ses inconvénients. Normal, comme toute chose. Mais je pense quand même que devant l'outil informatique, on ne doit pas reculer. Moi, je m'étonne jusqu'à présent qu'il y ait des collègues, moi j'ai 70 ans, et qu'il y ait des collègues qui ont 50 ans, et qui ne manipulent pas encore l'ordinateur, et qui écrivent leur texte, et ils leur donnent à la secrétaire ou à quelqu'un, il va. Mais c'est parce que écrire à l'ordinateur, et là je viens à écrire avec un ordinateur est différent du fait d'écrire avec un stylo ou avec une plume. Pourquoi c'est différent? Parce que la production du texte elle-même, elle est, disons, le lieu d'un malaxage, la plupart du temps, d'un ratage, de rature.
C'est artisanal.
Artisanal. Et l'ordinateur le permet. Pourquoi le permet? Parce que tu peux coller, changer, etc. immédiatement. Tu ne fais pas de rature, tu ne reviens pas, tu ne récupères pas ton texte, etc. Et ça permet que l'on aille lentement en écrivant, mais sûrement. Comme quelqu'un qui avance et avance à pas sûr. Et je vous assure qu'écrire à l'ordinateur change totalement l'acte d'écrire.
Nasr Ben Sheikh, quand on regarde vos livres, le nombre de lettres majuscules, le nombre de noms propres de Heidegger, à Tawhidi, à Mohamed Khadda, à Zubair Turki, on trouve Picasso, bien sûr, Cherkaoui, on trouve tout un monde que vous avez fréquenté. Qu'avez-vous trouver, Nasr Ben Sheikh, puisque les meilleurs chercheurs sont des trouveurs. Qu'avez-vous trouvé?
J'ai trouvé que, pour ce qui est du Maghreb, de toute manière, je pense que les meilleurs intellectuels sont les créateurs. Et qu'il y a une différence radicale à trouver ou à définir entre ce qu'on appelle l'intelligence, au niveau de ce qu'on appelle l'intelligentsia, en revenant aux politiques. Ce sont les créatifs, ce sont ceux qui s'occupent de créations concrètes qui sont les plus intéressants au niveau de la perspicacité du regard politique.
Et votre liste, Nasr Ben Sheikh, quelques noms comme ça, je trouve Sahli là, je trouve l'Arnaud, je trouve, il y a toute une foule. Najib Belkhoj, Juliette Guermédi, Mohamed Aziz.
Actuellement, ça c'est les années 60, les années 70, mais actuellement, est-ce qu'on se rend compte parfois de la perspicacité critique d'un homme de théâtre comme Tofir Jbeli au niveau de la perspicacité critique politique, mais pas politicienne. Parce que l'homme de culture, l'homme créatif, et non pas l'intellectuel abstrait des théoriciens, etc., des idéologues, l'homme créatif a un rapport au monde qui est fondé sur
L'argile
et l'aspect plastique, l'aspect transformation, l'aspect ça lui permet d'avoir, disons, la qualité d'un pragmatiste que tous les politiques souhaitent. parce que la création artistique, c'est du pragmatisme le plus évolué. Alors, ça permet à celui qui s'adonne à la création, que ce soit en écrivant, que ce soit en faisant de la poésie, que ce soit, etc., du théâtre, à avoir un sens du réel et du dépassement de ce réel à partir des données de ce réel.
Nasser Benchir, vous êtes frondeur, vous êtes prudent, vous êtes oseur. Quand Nasser Benchir voit une toile de Nasser Benchir, que dit Nasser Benchir à Nasser Benchir ?
Disons, j'ai toujours considéré que peindre, c'est réfléchir, c'est connaître, c'est un acte de connaissance. Beaucoup plus qu'un acte de représentation dans le sens spectaculaire ou quelque chose comme ça. C'est un acte de représentation dans le sens de compréhension du monde. Parce que pour comprendre le monde, il faut se le représenter, on ne doit pas se leurrer. Il n'y a pas de connaissance directe du monde sans passer par l'acte de se le représenter. La connaissance immédiate du monde, c'est la connaissance immédiate. Alors, l'outil qu'on appelle la peinture, le fait de prendre une toile et de l'arranger, de l'aménager, de l'organiser, de la composer, de la décomposer, c'est une réflexion sur le monde. Et c'est ça ce qu'a apporté la peinture personnellement. Donc, je n'ai pas cherché à m'instituer en tant que peintre professionnel ou marchand ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas beaucoup vendu, je n'ai vendu qu'à l'État. J'ai une grande collection chez moi de ma propre peinture. Je peux même faire à tout moment une exposition personnelle rétrospective à partir des toiles que j'ai gardées des années 60, etc. Parce que je considère que peindre, c'est essentiellement un acte de connaissance et un acte de réflexion. Et ça m'a beaucoup apporté au niveau de l'écriture, au niveau de la philosophie, au niveau de l'esthétique, etc. Le tout a été tiré de mes expériences picturales, mes expériences dans le sens pour expérience de la vie, c'est-à-dire ma pratique picturale de la vie. Et ça, pour moi, c'est très important, la peinture.
Un optimiste radical, un voyageur qui vit dans le risque, un homme cultivé, lecteur, qui défend une nouvelle conscience, qui considère l'artiste comme un régulateur, un modérateur. Un grand merci pour le professeur émérite artiste, auteur d'un livre très célèbre, « Peindre à Tunis, pratique artistique maghrébine et histoire », mais aussi un autre livre, La culture, l'université à l'épreuve de l'économie. Mais allez voir sa peinture, parce qu'il ne la vend pas, sa peinture. Parce que pour Nasser Benchir, penser, c'est peindre. Peindre, c'est penser. À la semaine prochaine.
Intersigne.